Bonjour à toutes et à tous. Nous présentons aujourd'hui la 8e édition de Livres en dialogue en ligne, rencontre dédiée aux parutions nouvelles des éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, qui associe les auteurs à des journalistes. En temps normal, les soirées Livres en dialogue sont organisées au forum de la FMSH Boulevard Raspail. Aujourd'hui, les éditions de la MSH ont le plaisir de vous présenter l'ouvrage Sur la trace des suspects, l'incorporation de la preuve et de l'indice à l'ère de la génétique, paru le 15 avril dans la collection Le Bien commun. Nous avons invité la directrice de l'ouvrage, Joëlle Vailly, sociologue et directrice de recherche au CNRS. Elle a développé une activité de recherche dans le domaine de la sociologie et de l'anthropologie politique du vivant et de la santé. Elle a publié notamment Naissance d'une politique de la génétique au PUF en 2011 et a dirigé l'ouvrage De la vie biologique à la vie sociale aux éditions de la Découverte. L'événement sera animé aujourd'hui par Fabienne Chauvière, journaliste, spécialiste des sciences. Fabienne Chauvière anime tous les samedis et dimanches à 7h15 l'émission Les Saventuriers sur France Inter et vient de faire paraître L'intelligence du vivant chez Flammarion. Cette séance étant enregistrée en direct, je vous serai bien reconnaissante d'éteindre vos micros et vos caméras. Vous pourrez revoir en replay la séance sur le site de Canal U ou sur le site de la FMSH d'ici quelques jours. Je vous informe que la seconde partie de l'événement sera consacrée aux questions. Tout au long de la discussion, vous pouvez poser vos questions par écrit sur l'espace conversation en les adressant exclusivement à la journaliste et modératrice de l'événement, Fabienne Chauvière. Nous y répondrons ensuite en seconde partie. Bonsoir Fabienne, je vous donne la parole.
Bonsoir Charlotte, merci beaucoup,
Bonsoir
bonsoir à
Fabienne.
tous. Nous allons avoir une soirée très très intéressante. On a bien préparé avec Joëlle Vailly et je sais que ça va être passionnant. On a l'impression aujourd'hui qu'aucune enquête ne peut se conclure sans que l'ADN n'ait parlé. C'est vrai que dans les séries télévisées, il est souvent question de l'ADN. Les empreintes génétiques sont souvent utilisées dans la réalité, c'est vrai. Et ce soir, on vous propose de lever le voile sur les pratiques au quotidien des policiers, des gendarmes et des magistrats. Ces pratiques sont relativement nouvelles, elles sont au cœur de transformations sociales importantes. Et pourtant, en France, il y a eu très peu d'études réalisées à leur sujet dans le domaine des sciences humaines. S'interroger pourtant sur l'utilisation des empreintes génétiques, c'est important et c'est l'objet du livre qui vient de paraître donc aux éditions de la Maison des sciences de l'homme sur les traces des suspects, l'incorporation de la preuve de l'indice à l'ère de la génétique. Il s'agit d'un ouvrage collectif qui a été dirigé, vous l'avez dit, par Joëlle Vailly. Joëlle Vailly qui est avec nous ce soir. Bonsoir Joëlle.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux et vous avez une double casquette. Vous êtes à la fois sociologue et docteur en sciences de la vie. Alors une question pour commencer, l'idée que le corps puisse donner des indices n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau avec les empreintes génétiques par rapport aux empreintes, comment on dit? Voilà, j'ai perdu le mot, les empreintes qu'on a au bout des doigts.
Digital.
Voilà, par rapport aux empreintes digitales, ce qui est nouveau, c'est que ces empreintes génétiques, finalement, on peut les transformer sous forme de chiffres, on peut les conserver et on peut les comparer, très facilement. Et c'est une véritable révolution qui est en marche.
Alors, en effet, ce que l'on a appelé l'incorporation de la preuve dans le titre du livre, c'est-à-dire en fait l'idée que le danger, l'identité puissent être détectés à partir du corps, cette idée n'est pas nouvelle, puisque dès l'anthropologie physique au XIXe siècle, avec les empreintes digitales, justement, il y avait la volonté d'essayer d'établir des éléments de preuve de culpabilité à partir de données corporelles. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, vraiment, c'est le fait déjà de pouvoir partir de toute petite quantité de tissu humain, et puis aussi, comme vous l'avez dit, de transformer des données sous forme de chiffres, et de fait de pouvoir à la fois les conserver, les communiquer et les comparer bien plus facilement qu'auparavant, ce qui a donné lieu à l'établissement de grandes bases de données dans beaucoup de pays du monde, en France, mais aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans beaucoup y compris dans des pays dits du Sud. Donc, on a vu ce développement spectaculaire depuis environ 20 ans, qui est lié en fait à la fois au développement de la génétique, bien sûr, avec l'essor de la génétique depuis les années 1980, le développement de la digitalisation, l'utilisation des ordinateurs, etc. Et puis, bien sûr, la place des questions de sécurité dans l'action publique. On le voit bien en ce moment en France, donc une place importante. Et finalement, ces différents éléments concourent au fait d'avoir mis sur pied ces grandes banques de données qui nous intéressent particulièrement, qui intéressent les sociologues, parce qu'elles reflètent des évolutions plus générales, aussi bien du côté de l'utilisation de techniques scientifiques dans les sociétés contemporaines, que du côté des transformations en matière de sécurité, et puis aussi du côté de plus généralement de l'utilisation des éléments biologiques dans les politiques publiques et dans les pratiques, c'est-à-dire ce que Michel Foucault, puisqu'on est aux éditions la Maison des sciences de l'homme, ce que Michel Foucault appelle le gouvernement du vivant, hein, c'est-à-dire en fait des pratiques qui passent par des techniques biologiques pour essayer de résoudre des questions sociales ou des problèmes sociaux. Et donc c'est cela qu'on a voulu étudier avec mes collègues, et plus généralement aussi, on a voulu étudier la façon dont l'ADN et dont les fichiers génétiques concourent à l'établissement des vérités judiciaires, en quelque sorte. Voilà.
Alors, l'utilisation de l'ADN pour identifier des suspects soulève de nombreuses questions d'ordre juridique, éthique, philosophique, anthropologique, sociologique. Vous êtes sociologue. Et pourtant, le grand public connaît mal ces pratiques en France. Ce que l'on en sait vient surtout des séries télévisées. C'est pas tout à fait la réalité.
Oui, ce que l'on en sait souvent est basé d'une part sur ce qui en est dit à travers de grandes affaires criminelles assez spectaculaires parfois, donc qui sont relatées dans la presse, ou bien à travers les séries télévisées qui, comme nous le disent les professionnels, proposent une image un peu déformée de la réalité. Et donc ce que nous avons voulu faire, en effet, c'est de nous concentrer sur des pratiques quotidiennes qui sont mal connues, des pratiques routinières, et toujours en essayant de partir du terrain, c'est-à-dire que nous avons en fait effectué plus de 130 entretiens avec des professionnels, des personnes qui participent d'une façon ou d'une autre à ces pratiques-là. Nous avons observé des réunions, nous avons observé aussi des procès où l'ADN est mobilisé, et puis bien sûr analysé toute une série de tout un corpus de textes et de règlements, de textes législatifs et de règlements, mais toujours en étant bien en phase avec les pratiques, et donc d'une façon interdisciplinaire, puisque dans le projet dont l'ouvrage retrace les résultats, il y avait une équipe de sociologues et puis une équipe aussi de juristes, et puis l'ouvrage s'est ouvert aussi à trois autres équipes qui nous ont fait l'amabilité d'y participer.
Alors, on va rentrer plus précisément dans le vif du sujet. Comment l'ADN est-il utilisé en France? On a une grande banque de données, elle n'est pas très connue, c'est le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG. De quoi s'agit-il exactement? Moi, je ne le connaissais pas vraiment, je n'avais entendu parler. J'ai appris énormément à travers votre livre. J'ai appris beaucoup et puis ça a suscité des questions chez moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce fichier qui regroupe tant de profils?
Alors, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, donc le FNAEG, en fait, c'est un grand fichier numérique qui regroupe des profils, ce qu'on appelle des profils génétiques ou des empreintes génétiques, qui correspondent en fait à des chiffres qui sont relatifs à la taille de petites séquences d'ADN, donc ce qu'on appelle des marqueurs d'ADN, qui ont des tailles très variables suivant les personnes, et donc qui vont être caractéristiques de ces personnes, ce qui va pouvoir permettre de les identifier en fait. Et voilà, c'est donc un grand fichier numérique.
Et il n'y a pas 300 personnes dans ce fichier. Il n'y en a plus de 3 millions. Enfin, 3 millions de profils.
Alors, effectivement, il y a un rapport datant de fin 2018 dénombrait environ 3 millions de profils, c'est-à-dire d'empreintes génétiques de personnes identifiées, hein, c'est-à-dire de personnes dont on a les noms, qui sont passées par exemple en garde à vue, et puis presque 500 000 traces non identifiées qui sont laissées sur une scène d'infraction, par exemple, ou de cadavres anonymes, l'idée étant précisément d'essayer de rapprocher des empreintes de traces avec celles d'un nom de façon à identifier, le cas échéant, l'auteur d'une infraction. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, il y en a probablement encore plus.
Comment est-ce qu'on atterrit dans ce fichier? Qui sont les profils qui sont dans ce fichier?
Alors, comment est-ce qu'on atterrit dans ce fichier? En fait, cela dépend du champ d'application du fichier, hein, qui est encadré par des lois. Et donc, en fait, il a été créé en 1998, ce fichier, et il était restreint à l'origine aux criminels sexuels. Et puis, la loi de 2001 l'a étendu aux crimes. À tous les crimes à l'égard des personnes. Et la loi de 2003 l'a étendue à la fois aux crimes et aux délits à l'encontre aussi bien de personnes que de biens. Ce qui fait que, en fait, le champ d'application s'est considérablement étendu et qu'il concerne donc aujourd'hui aussi bien les violences volontaires à l'encontre des personnes que bon, tous les crimes, les vols, les cambriolages, mais aussi les détériorations, les dégradations. Donc, en fait, la plupart des crimes du code pénal, en fait, sont concernés par le champ d'application du fichier, à l'exception des infractions financières, d'ailleurs, qui ne sont pas couvertes par l'application du fichier, c'est-à-dire, en fait, l'abus de biens sociaux, le délit d'initié, fraude fiscale, etc., ne sont pas couverts. Mais sinon, donc, la plupart des infractions sont concernées. Et donc les personnes qui commettent ou qui sont, la loi dit à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis ce fichier, hein, eh bien, sont concernées, qu'elles soient en fait coupables. Et où qu'elle soit aujourd'hui, depuis la loi de 2003, suspecte. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fichier, il y a aussi bien des personnes qui ont été condamnées que des personnes qui sont soupçonnées et donc qui n'ont jamais été condamnées, qui sont présumées innocentes, bien sûr, selon le droit français. Et donc, les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur nous disent qu'aujourd'hui, en fait, les trois quarts, 75% des profils de personnes enregistrées au FNAEG sont ceux de personnes suspectes, en fait, hein. Donc, le champ d'application s'est donc élargi. Les personnes suspectes sont entrées dans le fichier, quelle que soit la gravité donc de l'infraction. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que donc, l'usage de ce fichier est massif aujourd'hui, est massif et routinier. Et les durées de conservation des données sont longues, puisqu'elles sont de 25 ans pour les personnes suspectes et de 40 ans pour les personnes condamnées, quelle que soit d'ailleurs la gravité de l'infraction. Donc, on voit donc un usage relativement massif.
Donc, dans ce fichier, je résume, se retrouvent côte à côte des personnes soupçonnées et des criminels avérés.
Oui, bien sûr. Les personnes mineures au-delà de 13 ans sont aussi concernées. Donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, le fichage qui était restreint à l'origine aux criminels sexuels a facilité l'entrée dans la loi, mais aussi l'acceptabilité, hein, en somme, d'un fichage plus large, d'un fichage qui est basé sur le même type de technique scientifique et le même type d'organisation sociale en quelque sorte. Hein.
Et qui gère ce fichier?
Alors, le fichier est géré par la direction centrale de la police judiciaire, donc par le ministère de l'Intérieur et plus précisément, c'est la sous-direction de la police technique et scientifique qui gère le fichier.
Que mettre tant de profils dans ce fichier, il y a une logique derrière ça. Quelle est la logique de la police et de la gendarmerie? Est-ce que la logique, ce serait de mettre, au bout du compte, tout le monde dans ce fichier?
Alors, nous avons étudié dans une des trois parties du livre précisément les conditions du débat public au sujet de ce fichier, c'est-à-dire en fait la façon dont cet équilibre entre deux objectifs légitimes, hein, qui sont préserver la sécurité des populations et en même temps préserver la dignité des personnes, dont cet équilibre est discuté et mis en œuvre. Et donc pour étudier cela, nous avons adopté une sorte de principe de symétrie qui a été de recueillir et d'essayer de comprendre les logiques sociales aussi bien des policiers et des gendarmes que les points de vue des personnes qui s'opposent à l'usage actuel de ce fichier. Et donc, pour ce qui est des policiers et des gendarmes, on peut résumer les choses en disant que il y a quatre arguments qui prévaut pour, selon eux, justifier un fichier relativement étendu. Donc le premier argument, la première logique finalement, c'est le fait de dire que il convient de repérer un auteur d'infraction le plus tôt possible dans son parcours délinquant, hein, c'est-à-dire en fait ce que les sociologues appellent leur carrière déviante. Donc il faut recueillir ficher cette personne parce que elle est susceptible de commettre une autre infraction à l'avenir ou bien d'en avoir commis dans le passé. Donc il y a une idée de temporalité qui est importante en fait, hein, et ce qui est évidemment à relier au fait que l'ADN étant une molécule assez stable, eh bien on peut revenir à des affaires parfois très anciennes. Et donc il y a une espèce de porosité finalement de la catégorie d'auteur d'infraction qui devient aussi un suspect pour des infractions passées ou à venir. Et puis la deuxième logique, c'est une logique plus probabiliste qui consiste à dire que finalement, plus le fichier sera large et plus statistiquement les chances d'identifier un suspect seront grandes. Et donc, l'idée, pour revenir à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, l'idée, c'est finalement souvent d'arriver à une sorte de plateau qui correspond à la population susceptible de commettre une infraction, donc ce que une des personnes interviewées a appelé la population suspectale, hein, en fait, avec une sorte parfois de triage social, en fait, entre les personnes susceptibles de commettre des infractions et les autres. Et puis, dans une minorité de cas, mais le point de vue a été formulé plusieurs fois, effectivement, l'idée a été que finalement, il conviendrait de ficher toute la population française, peut-être à la naissance, de façon toujours à arriver à cette logique probabiliste d'identification des auteurs d'infractions, ce qui bien sûr pose toute une série de questions à la fois éthiques, juridiques, sociales et financières. Enfin, Je ne développe pas ça maintenant, ça soulève toute une série de questions, bien entendu, mais le point de vue a été également formulé, même si, encore une fois, il était minoritaire. Et alors, juste pour finir sur les logiques sociales du côté de la police, parce qu'il y en a aussi qui sont plus reliées au côté institutionnel, en fait, notamment le fait qu'il y a une répartition en fait des responsabilités entre la justice et la police dont il faut rendre compte. C'est-à-dire que depuis la loi de 2003, un officier de police judiciaire peut alimenter le fichier, c'est-à-dire envoyer des données au FNAEG de son propre chef, c'est-à-dire décider qu'une personne entre dans le fichier. Donc, en général, il le fait de son propre chef, c'est-à-dire que dans 93% des cas, les entrées dans le FNAEG pour des individus sont à la demande d'un officier de police judiciaire, sauf dans les cas litigieux et pour les mineurs, justement, où il va en discuter avec le magistrat. Mais donc, bien souvent, c'est l'officier de police judiciaire qui décide de l'entrée au FNAEG, donc ce qui contribue aussi à cette alimentation, puisque on a vu quels étaient les arguments en faveur de l'alimentation précédemment. Donc, en fait, la responsabilité de l'entrée au FNAEG est passée de la sphère judiciaire à la sphère policière. Et la dernière logique, c'est celle qui est plus intra-institutionnelle au sein du ministère de l'Intérieur, qui est que, en fait, les officiers de police judiciaire sont soumis à des objectifs chiffrés, et donc ils sont notés. Cette note a un impact sur le déroulé de leur carrière, et parmi les critères de la note, la signalisation, donc empreinte digitale et empreinte génétique, y figure. Donc, en fait, ils sont à la fois, ils ont un pouvoir d'alimentation, mais en même temps, ils sont eux-mêmes soumis à un pouvoir, à une injonction qui est d'alimenter ce fichier. Et il y a des statistiques qui sont établies, nous a-t-on dit, au niveau de districts d'état-major, au niveau du ministère de l'Intérieur, qui correspond en fait à ce que certains appellent la politique du chiffre, hein, qui est un peu un serpent de mer des politiques publiques. Et qui fait que ce taux de signalisation, finalement, est en augmentation régulière depuis plusieurs années. Il est aujourd'hui à 85% pour la police, ce qui veut dire que, en fait, 85% des personnes qui passent en garde à vue entrent au FNAEG. Donc, finalement, ces différentes logiques sont imbriquées et elles convergent pour aller vers quelque chose que l'on a qualifié l'extension et la durabilité du soupçon, puisque on voit que ceci a tendance à s'étendre, même si, bien sûr, je finis juste, il y a aussi des personnes qui sont en quelque sorte innocentés par l'ADN, qui sortent donc de la catégorie de suspect parce que l'ADN ne correspond pas avec celui de la trace. Donc, bien sûr, cela existe aussi. Et donc, il y a des personnes qui sortent de la catégorie de suspect, mais globalement, étant donné l'alimentation massive du FNAEG, on a plutôt un mouvement général qui tend à l'extension, en fait, hein.
Joël Vailly, qu'est-ce qui se passe si on refuse d'être prélevé, si on refuse de se laisser prélever de l'ADN? Ça a été le cas pour les faucheurs d'OGM notamment.
Oui, effectivement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes intéressés au point de vue aussi bien des policiers qu'à ceux des personnes qui s'opposent à l'usage actuel du FNAEG, sachant que depuis la loi de 2003, en fait, le refus de prélèvement ADN est pénalisé, c'est-à-dire que il est sanctionné. On n'a pas le droit de refuser de donner son ADN dans ces conditions-là. Donc, il y a environ environ 300 à 500 condamnations par an pour refus de prélèvement ADN. Et donc, il y a parfois des contestations publiques qui émanent en fait de syndicalistes ou de militants politiques qui ne contestent pas l'usage de l'ADN entre un usage limité, disons ponctuel, entre une trace et une personne, qui ne conteste pas non plus un usage du fichier restreint aux criminels, aux auteurs de crimes graves. En revanche, il s'oppose à un fichage qui est en quelque sorte déconnecté de l'issue judiciaire du délit, puisque j'ai dit que les suspects y entraient, et qui est déconnecté aussi de la gravité de l'infraction. Ces personnes, finalement, d'une part, témoignent de logique de distinction, hein, c'est-à-dire que ils ne se considèrent pas comme des criminels, ils considèrent qu'ils n'ont rien à faire dans un fichier de criminels. Ils ont manifesté dans le cadre d'une opération syndicale où ils ont tagué des publicités parce qu'ils sont opposés aux publicités abusives, par exemple, ce qui est une dégradation, donc ce qui entre dans le champ d'application du FNAEG, et donc certains refusent de donner leur ADN. Et en effet, les faucheurs d'OGM étaient concernés aussi, mais le fauchage OGM est sorti en fait du champ d'application du FNAEG en 2008. Il faut dire que les faucheurs faisaient beaucoup parler d'eux, et qu'à un moment ça a été un petit peu compliqué de continuer à les faire entrer dans le FNAEG. Juste pour terminer, parce qu'il y a un troisième argument de leur côté, qui est plutôt un argument juridique, qui est de dire qu'il y a une disproportion entre l'atteinte à la vie privée que représente ce fichage et la conservation des données. Donc, en fait, il s'appuie sur un arrêt, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, donc sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a condamné le Royaume-Uni en 2008 à propos du fichier britannique, parce qu'il faut savoir qu'au Royaume-Uni, en fait, les données génétiques, mais aussi les échantillons d'ADN étaient conservés de façon illimitée dans le temps. Alors, je précise qu'en France, les échantillons d'ADN, eux, ne sont pas conservés quand ils concernent des personnes. Hein. On conserve les données, mais pas les échantillons. Donc, le Royaume-Uni a été condamné sur cette base-là, et la France a été également condamnée en 2017 par la Cour européenne des droits de l'homme à propos du FNAEG pour les mêmes raisons, c'est-à-dire un argument de disproportion à l'égard de l'atteinte à la vie privée. Voilà.
Merci beaucoup, Joëlle, de nous avoir présenté ce fichier, le FNAEG, qui réunit plus de 3 millions de personnes. Et merci de nous avoir parlé aussi des problèmes que cela peut susciter. Mais j'aimerais qu'on parle de l'ADN maintenant. Est-ce qu'on peut dire, l'ADN, on en parle de plus en plus, est-ce que l'on peut dire que c'est la reine des preuves, comme on a pu le dire pour les empreintes digitales au 19e siècle?
Alors, l'ADN est souvent qualifié de reine des preuves, mais je pense que les choses sont plus complexes que cela. Aujourd'hui, en tout cas, la place de l'ADN dans l'établissement de la vérité judiciaire, donc qui a fait l'objet de certaines de nos recherches, en fait, est bien sûr reliée à cet outil qu'apporte la génétique, par définition, un outil qui véhicule évidemment une légitimité scientifique. La génétique est placée en haut de la hiérarchie des sciences, et puis elle s'accompagne aussi d'une autre légitimité qui est la légitimité des statistiques, puisque lorsque un expert, par exemple, présente son analyse lors d'un procès, il va présenter ce qu'on appelle un calcul de concordance fortuite. C'est-à-dire que, en fait, il va présenter un calcul sur le risque qu'une autre personne dans le monde que le suspect ait la même empreinte génétique que celle de la trace. Donc, en général, quand il est appelé à témoigner dans un procès, il va présenter un risque très faible que ce soit une autre personne que le suspect qui ait laissé sa trace. Donc, son calcul, en fait, va être de l'ordre de 1 sur 5 800 milliards, par exemple. Et donc, on comprend bien qu'un chiffre de ce type a une force probatoire très grande et qu'il apporte des éléments importants lors du procès, d'autant plus que, alors, une force probatoire grande, lié aussi au fait que c'est parfois difficile de rentrer dans ce calcul. Il y a une technicité derrière qui paraît difficile, qui à mon sens ne l'est pas tant que ça, mais je ne suis peut-être pas tout à fait naïve dans ces domaines-là non plus. Donc en fait, il y a l'idée que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre souvent, hein. Donc ça apporte une force probatoire très grande, sous réserve toutefois que les conditions techniques, bien sûr, soient réunies, hein. C'est-à-dire, pardon.
Oui, elle était terminée.
Ben, c'est-à-dire qu'il faut que l'ADN soit de bonne qualité, il faut qu'il ne soit pas dégradé, c'est-à-dire pas abîmé, pas trop vieux, il faut qu'il n'y ait pas plusieurs ADN mélangés dans une trace, il faut qu'il n'y ait pas de contamination et puis qu'il n'y ait pas d'erreur humaine, d'erreur d'étiquetage, comme on en a connu parfois aux États-Unis, par exemple. Donc, si ces conditions là sont réunis, bien sûr, l'ADN peut apporter des outils très utiles à la résolution de certaines enquêtes, hein, dans le domaine des viols notamment. Je crois que toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions le pensent. Mais en même temps, vous me posiez la question sur l'ADN est-il la reine des preuves. Je pense qu'il ne faut pas surévaluer sa place. Puisque finalement, dans les cas les plus simples, quand l'ADN est très propre, les rapprochements entre ADN laissent peu de doutes sur la personne qui a laissé sa trace, hein, en fin de compte, hein. Cela n'implique pas qu'elle soit l'auteur de l'infraction. Elle a pu laisser sa trace en étant de passage dans la pièce, en ayant touché un objet, sans être l'auteur. Et cela, a fortiori aujourd'hui, puisque les analyses peuvent être effectuées à partir de quantités vraiment toute petite de cellules, parfois jusqu'à une cellule, et donc on conçoit très bien que une trace aussi ténue finalement puisse être laissée, y compris une trace de contact, puisse être laissée sans que la personne soit auteur de l'infraction.
Vous avez parlé de traces très ténues, la technologie évolue sans cesse, elle est de plus en plus pointue. Que peuvent dire les empreintes génétiques aujourd'hui, même une toute petite trace? Que peut dire une toute petite trace?
Bien, en fait, si donc il y a cette concordance, on aura l'identité de la personne qui a laissé sa trace. Maintenant, l'ADN établit une forme de vérité, hein, quand on dit dans la presse l'ADN a parlé, bon, il établit une forme de vérité, mais il n'est pas le seul à parler précisément, puisqu'il reste de la place pour le verbe, comme nous le disait un enquêteur de police. Il va falloir que le suspect s'explique sur les raisons pour lesquelles sa trace est présente. Et donc, il va devoir aussi rendre des comptes de façon oralement. Et donc, finalement, l'ADN, sauf dans certains cas particuliers, mais disons que d'une façon plus fréquente, l'ADN apporte d'après ce que nous disent les professionnels, hein, apporte des éléments de preuve, en fait. Il apporte des éléments de preuve aux côtés d'autres éléments de l'enquête classique ou bien d'autres techniques scientifiques, hein, puisque il y a d'autres techniques aujourd'hui. Donc, il apporte un élément de preuve aux côtés d'autres éléments dans le cadre du dossier, plus généralement. Voilà,
une empreinte génétique ne suffit pas à condamner.
Voilà, il peut jouer, alors dans certaines affaires, il peut jouer un rôle très important, il peut jouer un rôle décisif, hein, bien sûr, mais de façon plus générale, plus fréquemment, il est un élément parmi d'autres. On pourra revenir à cette question de la preuve ADN plus tard, mais disons qu'il a une place qui est particulière du fait de la mobilisation des outils génétiques et de tout ce que véhicule aussi la génétique du point de vue des imaginaires aussi, de ce que la génétique véhicule, du fait qu'elle soit associée à une forme d'intimité. Et elle est performante, c'est une technique qui est performante dans les conditions, sous réserve donc que les conditions soient réunies, mais c'est un élément de preuve, voilà.
Vous, en tant que sociologue, est-ce que vous faites la différence entre la vérité scientifique et la vérité judiciaire, par exemple?
Ah, oui, les collègues juristes nous rappellent que, en effet, la vérité judiciaire a des impératifs autres que simplement la vérité scientifique. La vérité judiciaire s'appuie aussi sur la bonne marche de la justice, l'ordre public, la préservation de la dignité de la personne, etc. Bien sûr.
Alors, je rappelle aux personnes qui nous suivent que dans quelques minutes, une dizaine de minutes, vous pourrez poser vos questions. Mais il faut que vous nous disiez aussi ce à quoi on peut s'attendre avec l'ADN, avec les techniques émergentes. Est-ce qu'on va, dans les années à venir, demander plus de détails au test ADN, par exemple?
Effectivement, une des parties de l'ouvrage, donc qui a trois parties différentes. Une des parties de l'ouvrage est consacrée à ces techniques plus récentes, plus exploratoires. Donc, il y a des techniques émergentes qui sont, par exemple, celles de ce que l'on a appelé le phénotypage. Hein. Le phénotypage, c'est-à-dire, en fait, c'est une technique qui cherche à établir des corrélations entre des petits marqueurs génétiques, donc des petites séquences génétiques qui sont différentes de celles qui sont utilisées pour le FNAEG, hein, ce ne sont pas les mêmes, et d'ailleurs la nature de ces petites séquences n'est pas précisée dans la loi, et leur nature et leur nombre ne sont pas précisés, contrairement à ce qui prévaut dans le cas du FNAEG. Donc cette technique, en fait, cherche à établir des corrélations entre des marqueurs génétiques et l'apparence des suspects, notamment.
Est-ce que vous pouvez être plus concrète? Vous m'avez expliqué que ça pouvait donner des indices sur l'origine géographique, la couleur de la peau, des cheveux, des yeux.
Effectivement, ces tests peuvent donner des indications en termes de couleur de peau, couleur de cheveux, couleur des yeux du suspect, lorsqu'il n'y a pas d'autres pistes, en fait, lorsqu'il n'y a pas de concordance avec une personne du FNAEG et qu'il n'y a pas de pistes, un peu en désespoir de cause, les enquêteurs peuvent utiliser cette technique qui donne donc principalement ces trois informations. Il y en a d'autres, mais ce sont les trois principales. Et puis aussi, l'origine géographique du suspect établie par continent, hein, en fait. C'est-à-dire que donc on cherche à établir à la fois son apparence et puis son origine géographique pour essayer d'orienter l'enquête. Et donc, nous avons étudié la façon dont cette technique, qui est aujourd'hui utilisée en France, elle a été utilisée plusieurs centaines de fois aux États-Unis, en Grande-Bretagne, aussi aux Pays-Bas, en Espagne et donc maintenant en France. La façon dont cette technique a été problématisée, puis déproblématisée en fait, depuis 2006, c'est-à-dire que en réalité, Foucault, Michel Foucault, utilise le terme de problématisation pour désigner quelque chose qui perd en familiarité, hein, en fait, à un certain moment, une notion, une pratique. Perd en familiarité, commence à poser problème et finalement sort de l'évidence. Et donc nous avons étudié comment cette technique, à un moment donné, a été problématisée. En 2006, elle a été lancée par une entreprise de biotechnologie privée, une entreprise qui a vendu donc des tests, qui essayait d'établir une concordance statistique entre des marqueurs génétiques et puis l'origine géographique des suspects, donc Afrique, Europe, Asie, ou parfois un mélange. Et donc, on a vu tout de suite, assez tôt en tout cas, les prémices d'une problématisation dans le sens où des responsables de cette entreprise faisaient opérer une sorte de glissement entre des catégories géographiques donc neutres et puis dans les propos des catégories de sens commun en fait hein, par couleur de peau et donc à ce moment-là il y a eu une controverse en 2008 impulsée par des magistrats membres du syndicat de la magistrature hein, qui est le deuxième syndicat en France par son nombre pour la magistrature et donc ces magistrats se sont opposés à l'usage de ces tests sur la base de trois arguments. Un argument de légalité, je ne développe pas, mais ils considéraient qu'ils étaient illégaux. Un argument de scientificité, ils considéraient qu'il n'y avait pas de publication scientifique pour les légitimer. Et puis surtout, je crois, un argument plutôt moral et politique qui était de dire que finalement, ces tests pouvaient être utilisés pour instaurer une sorte de fichage des populations par l'origine en se référant à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et des fichiers juifs et donc en pointant les risques de stigmatisation. Et puis finalement, le ministère de la Justice les a interdit ces tests en 2011 en considérant que la question déjà était assez sensible parce que elle mêlait à la fois le crime, les origines et l'ADN, trois gros mots, hein, comme m'a dit le porte-parole du ministère en entretien. Et puis, il a considéré que ces tests étaient illégaux, jusqu'à ce qu'en 2014, finalement, la Cour de cassation autorise les tests visant à établir, enfin, à prédire l'apparence des suspects. Sans préciser ce que recouvre l'apparence, en fait. Donc, certains laboratoires y incluent les tests d'origine et d'autres pas. Et donc, cela reste un peu en suspens. Mais donc,
ça fait partie quand même des craintes qu'on peut avoir pour les années à venir. Est-ce que une question encore avant de laisser les questions aux personnes qui suivent cette conférence, non pas en présentiel, mais via Internet. Est-ce qu'on se dirigerait vers une sorte de portrait robot génétique? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là?
Pour le moment, non, puisque c'est un terme qui est parfois utilisé dans la presse, mais on n'en est pas là. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de portrait robot possible établi par l'ADN. Il y a donc les caractéristiques dont je vous ai parlé, qui sont aujourd'hui utilisées. Donc, chaque mois, il y a des tests qui sont effectués. Il y a aussi des laboratoires qui cherchent précisément à relier l'ADN à la physionomie, enfin, il y a une espèce de quantification métrique du visage, donc qui cherche à aller vers cela, mais pour l'instant, la technique n'est pas au point, elle n'est pas utilisée, disons qu'elle n'est pas, elle n'est pas fiable. Donc, il y a une volonté, une espèce aussi de promesse, hein, et peut-être de rêve autour de cela pour certaines personnes, mais pour le moment, on n'en est pas là, non.
Nous devions avoir avec nous Florence Bellivier, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit là. Si elle est là, est-ce qu'elle peut se faire connaître? Florence Bellivier,
Je suis là.
bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit. Si vous voulez bien mettre votre caméra,
Oui, bien sûr.
vous voir. Vous êtes professeur de droit à l'université de Paris-Nanterre. Et vous allez nous parler des fichiers à l'échelle européenne. Bonjour.
Bonjour. Je crois voir qu'il y a aussi Christine Noiville. Je ne sais pas si elle est disponible, comme on a écrit notre contribution à trois, en fait, avec Gaëlle Cricorian, qui je crois n'est pas là. Si Christine veut réagir, c'est très bien aussi.
Une des deux.
Voilà, ouais.
Est-ce qu'on n'a pas beaucoup de temps?
OK.
Voilà.
Alors écoutez, à l'échelle européenne, ce qui est mis en place, c'est un système assez original qui est issu d'un traité qui s'appelle le traité de Prüm. Qui a été mis, qui a été signé dans le cadre de l'Union européenne, hein, donc l'Europe dite économique, qui est aussi l'Europe de la circulation des personnes et des biens, et maintenant elle est aussi l'Europe de la circulation des empreintes. Alors plus précisément, parce qu'il ne faut pas fantasmer cette circulation, c'est pas de ça dont il s'agit. Ça n'est ni un grand fichier qui regrouperait les empreintes.
Tous les Européens.
Voilà, comme voilà, c'est pas ça, c'est pas Interpol, d'accord? Et ça n'est pas non plus, voilà. Donc, ce que c'est, pardon, je vais plutôt vous dire ce que c'est un système d'interrogation par chaque État parti au système Prüm, possibilité d'interroger le fichier d'un autre État pour savoir si par hasard il circulerait un profil qui correspondrait à une trace non élucidée en France.
Mais
D'accord?
ça fonctionne à condition que tout le monde travaille de la même façon, qu'il y ait
Alors,
une
c'est
certaine harmonisation.
tout à fait. C'est un des problèmes, mais je dirais que c'est le problème général de l'Europe, hein, et aussi de la coopération policière et judiciaire en Europe. C'est qu'en effet, pour que cela marche, il faut s'harmoniser. Alors, ça veut dire qu'il faut harmoniser quoi? Il faut harmoniser trois choses. Il faut harmoniser, d'une part, techniquement, la manière dont on interroge, dont on fait parler l'ADN, pour reprendre ce que disait Joël Vailly. Donc, est-ce qu'on utilise des ADN plutôt vieux, plutôt jeunes, combien de Loki on teste, d'accord, etc. Donc, il y a une harmonisation véritablement technique. Il y a une harmonisation également qui est en cours, hein, pour l'instant, elle n'est pas faite. Une harmonisation des délits, enfin des infractions, je vous prie de m'excuser, pour lesquelles on entre ou pas un profil ou une trace dans un fichier. Et puis une harmonisation des pratiques. Joël Vailly disait tout à l'heure, par exemple, que le FNEG, il était sous l'autorité de la police. Vous avez des pays très proches de chez nous, comme par exemple la Belgique, dans lesquels l'équivalent de leur FNEG est sous l'autorité de la justice, des autorités judiciaires. Donc, vous voyez bien que les questions d'interrogation, etc., ne sont pas les mêmes. Mais malgré tout, ce qu'on a observé, Gaëlle Cricorian, Christine Noiville et moi-même, c'est que ça circule. Et donc, la phase circulation, elle fonctionne plutôt bien, si on veut.
Donc ça fonctionne
Ça
déjà.
marche, ça marche. Donc, après, tout dépend de savoir ce qu'on entend par ça marche. Si ça marche, ça veut dire ça circule, oui, c'est-à-dire les fichiers sont interrogés soit au cas par cas, soit de manière, comment vous dire, régulière. On balance, passez-moi l'expression, mais c'est vraiment de ça dont il s'agit, on balance un certain nombre de traces non élucidées à un fichier européen pour voir si ça match, pour reprendre l'expression, avec un profil contenu dans cette base, dans une de ces bases. Donc, ça circule au sens où il y a des interrogations, il y a des réponses, d'accord ? Ça marche ou ça match ou ça matche pas ? Et si ça match, tenez, voilà les données nominatives, parce que ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est que c'est en deux temps, d'accord ? Premier temps, j'interroge la base pour savoir si y a un profil qui correspond à ma trace non résolue. Deuxième temps, l'état dit requis, je lui demande de me donner les données nominatives. Bon, très bien. Mais en revanche, si le « ça marche », c'est « est-ce que cela aboutit à élucider des affaires ?»
Alors,
un peu ce que disait Joël Vailly tout à l'heure quand on examine la question en France, hein, ben, on peut pas vous dire oui ou non en réalité. On n'a pas d'instrument d'évaluation qui permettrait de savoir si cet usage incroyablement performant et vaste de l'ADN aboutit à élucider des affaires.
Et quelles sont les difficultés, d'après vous, soulevées par cet échange de données génétiques ?
Les difficultés, elles sont… alors, c'était la… on a été un peu surprise, Gaëlle Krikorian, Christine Noaville et moi-même. Au début, on s'est dit, les difficultés, elles sont peut-être, éthiques ou politiques, ou etc. On s'est dit que peut-être que les policiers, les gendarmes français, bon, pas français parce qu'on connaît la question en France, hein, seraient un peu réticents ou connaîtraient mal l'outil, ou etc. Et en réalité, non. C'est-à-dire, on s'est aperçu que cet outil, il y avait eu une familiarisation, qu'il était utilisé, alors je ne vous dis pas quotidiennement, mais enfin quand même de manière relativement routinière. Non, ce qui nous est, donc finalement, après l'étude, ce qui nous est apparu problématique, c'est que d'une part, il y a une méconnaissance générale. Les gens connaissent quand même le FNAEG à peu près. Enfin, les gens savent en France qu'il y a un fichier national automatisé des empreintes génétiques. En revanche, le système PRUM, vous en parlez, personne ne sait. Autant Interpol, par exemple, les gens connaissent Interpol. Hein. Mais alors, le système PRUM, personne ne sait ce que c'est. Les gens, en général, ils pensent qu'on parle du système PRUNE, d'accord ? Donc, système PRUM. Donc, il nous semble qu'il y a un déficit, si vous voulez, c'est la conclusion de notre article, hein, de deux choses l'une. Soit c'est utile et cela respecte les grands principes de la procédure pénale, etc. Et dans ce cas-là, il faut que ce traité soit connu. Il est à l'heure actuelle en cours de rediscussion et notamment dans le préambule de ce traité que les grands objectifs qu'il s'assigne soient clairement énoncés, ainsi que les défis qu'il pose. Soit il pose des problèmes, notamment parce que, par exemple, il ne servira pas à grand-chose pour élucider des affaires, et dans ce cas-là, il faut pouvoir l'évaluer.
Voilà donc pour le système PRUM. Est-ce que vous avez des questions pour Joël Vailly, mais aussi pour Florence Bélivier, vous qui êtes de l'autre côté de votre écran? Joël, est-ce que on peut parler de la recherche en parentèle? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'ADN récréatif, retrouver ses ancêtres, ses cousins, d'où on vient, etc. Mais est-ce que ça peut servir la justice, la police ou la gendarmerie?
Alors, La technique de recherche en parentèle, c'est aussi une technique plus récente que l'usage du FNAEG. C'est une technique qui consiste à essayer d'établir une correspondance non pas totale, donc entre une trace et l'empreinte d'une personne, mais une correspondance partielle, en fait. Hein. On cherche une ressemblance, mais pas une correspondance totale. Donc, une correspondance partielle entre la trace et une personne du fichier pour essayer de retrouver un suspect qui est apparenté en ligne directe, donc soit des parents, soit des enfants, avec la personne du fichier. Lorsque on n'a aucune piste et qu'il n'y a pas de concordance totale, bien sûr. Et donc, c'est une technique qui a été mise en œuvre lorsque nous avons terminé notre recherche, qui avait été mise en œuvre une soixantaine de fois en France, qui a été consacrée par la loi en 2016, et qui avait permis à l'époque d'identifier six personnes, soit des auteurs de crimes, soit des cadavres anonymes, hein, en fait. Et donc, c'est une technique qui, en fait, bien sûr, soulève, comme toutes ces techniques émergentes, toute une série de questions, notamment sociologiques et juridiques, parce que, d'une part, on obtient un groupe de personnes qui ont cette concordance partielle, puisque il faut rechercher dans une mini-population qui pourrait être l'auteur. Et évidemment, il y a une enquête de police qui est effectuée, d'une part, sur la personne du fichier, mais qui n'est pas l'auteur par définition, sinon il y aurait eu une concordance totale. Néanmoins, il y a une enquête de police, et puis il y a une enquête sur les apparentés biologiques, donc les parents, les enfants. Aux États-Unis, ça va être également les frères et sœurs et les cousins, donc la famille biologique est concernée. Parmi les personnes de ce groupe, ce qui pose bien sûr des questions juridiques sur le type d'enquête qui est menée sur des personnes qui peuvent avoir un lien quand même assez lâche avec l'infraction, même si peut-être qu'une de ces personnes est en fait l'auteur. Et donc, il y a eu, il faut peut-être le préciser, il y a eu une controverse à ce sujet aux États-Unis, parce que la police états-unienne, bon, sachant qu'aux États-Unis, il y a plusieurs niveaux de police, hein, bien sûr, il y a l'État fédéral, il y a la police des États, il y a la police des villes, et donc la police avait fait une recherche en parentèle, non pas seulement avec l'équivalent du FNAEG aux États-Unis, mais aussi avec une base de données qui était en fait issue d'une entreprise de biotechnologie qui vend des tests sur Internet, donc qui vend des tests à des personnes qui veulent avoir des informations sur des prédispositions à des maladies ou des supposées parfois prédispositions à des maladies ou des informations sur la généalogie, sur l'ancestralité. Donc ces personnes achètent des tests sur Internet. Donc les entreprises ont de grandes bases de données, mais privées, hein, cette fois. Et donc la police aux États-Unis avait utilisé ces bases de données pour essayer de retrouver des auteurs de crimes. Et d'ailleurs, elle a identifié plusieurs auteurs de crimes, dont l'auteur d'un tueur en série, en fait. Et donc la controverse est née du fait que une publication qui est parue dans la prestigieuse revue Science a montré que, en fait, 60% des personnes aux États-Unis qui ont une ascendance européenne et 40% pour les personnes afro-américaines sont apparentées à quelqu'un qui a acheté un test dans ces bases de données. Autrement dit, quasiment la moitié de la population aux États-Unis peut être identifiée par l'intermédiaire de cette technique à partir d'un ADN laissé sur une scène d'infraction, même si ces personnes n'ont jamais acheté elles-mêmes des tests ou n'ont jamais donné leur accord pour quoi que ce soit. Mais finalement, de proche en proche, tout à l'heure, on parlait d'une extension de la suspicion. Là, on voit que cela prend une autre dimension. Et donc, effectivement, il y a eu cette controverse aux États-Unis qui a changé la politique d'une de ces entreprises, d'ailleurs, qui a demandé l'accord aux clients pour que leurs données soient utilisées par la police si le cas se présente. Alors, en France, la situation ne se pose pas de cette façon-là, puisque je rappelle que les tests génétiques sur Internet sont interdit en France. On n'est pas censé acheter un test génétique sur Internet, même si des personnes achètent aux États-Unis des tests. Mais Bon, y a des, évidemment des questions de souveraineté qui font que la police française n'a pas le même accès aux bases privées aux États-Unis que la police états-unienne. Donc la question ne se pose pas de cette façon en France, mais je pense que c'est aussi intéressant d'y réfléchir et de se poser des questions en amont.
Alors, est-ce que vous avez des questions pour Joël Vailly ou Florence Bélivier, qui est avec nous également je crois qu'il y a d'autres auteurs qui sont en ligne avec nous. Florence Patterson, me dit-on, Christine Noiville.
Alors, sinon, moi, j'ai d'autres choses à dire. Hein.
Oui, non, mais ça, je vous fais confiance. Moi, j'ai encore une question et après, vous poserez vos questions vous-même. Est-ce que les professionnels sont bien formés à l'utilisation de ces nouvelles technologies? Techniquement, probablement, mais est-ce qu'ils sont bien formés éthiquement, moralement? Est-ce que c'est une question qu'on peut vous poser?
Alors, techniquement, cela dépend de qui on parle, hein, en fait, puisque nous avons vu toutes sortes de personnes, enfin différentes professions. Nous avons vu des personnes de la police technique et scientifique qui, bien sûr, connaissent très, très bien ces questions, mais aussi des enquêteurs de police qui, eux, évidemment, n'ont pas la même formation scientifique et se sentent assez éloignés de tous les aspects techniques. Et puis, nous avons vu certains magistrats qui ont une formation dans le domaine. Nous avons même fait une formation nous-mêmes aux magistrats, à l'école de la magistrature, pour cela. Mais bien sûr, toutes ces personnes n'ont pas du tout le même degré de formation dans ces domaines-là qui peuvent être relativement techniques ou qui peuvent aussi faire peur dans certains cas. Bon, je ne parle pas bien sûr des responsables d'entreprises de biotechnologie qui eux, par définition, les connaissent très bien. Pour ce qui est d'une réflexion plus éthique, ce que je trouve assez frappant, c'est que d'une façon générale, autant il y a de nombreux débats bioéthiques à l'occasion des révisions de lois de bioéthique, notamment autour des usages de la génétique dans le domaine de la santé, de la médecine, autant pour ce qui est de la police, finalement, il y a peu de débats, donc il y a peu d'espace collectif de réflexion, même si l'un des chapitres du livre est consacré au travail de ce que l'on appelle le comité technique du FNAEG. Alors, le comité technique du FNAEG, c'est un comité, comme le nom l'indique, qui regroupe une douzaine de personnes, qui regroupe donc des policiers, des gendarmes, qui est présidé par un magistrat et qui est en charge en quelque sorte du pilotage, hein, du pilotage du FNAEG. Le travail de ce comité a été étudié par deux des co-auteurs grâce à l'analyse des comptes rendus des réunions et ce qui montre en fait la façon dont ce comité transforme ou essaye de proposer des transformations du droit pour que le FNAEG continue à être opérationnel et aussi à être légitime, hein, puisqu'il faut aussi qu'il soit accepté par la population, ce qui pour le moment semble être le cas, mis à part les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'y opposent publiquement, mais globalement, c'est un fichier qui est plutôt, dont on n'entend pas tellement parlé dans le sens critique.
Parce qu'il est aussi très peu connu.
Parce qu'il est très, très peu connu. Pardon?
Il est très peu connu par le grand public.
Il est assez peu. C'est une espèce de justement de familiarité parce qu'on entend souvent parler de l'ADN à propos d'une affaire. Donc on entend parler plutôt de ce qu'un historien appelle le témoin génétique, hein. C'est-à-dire qu'on voit là apparaître l'ADN comme témoin en remplacement d'un témoin oculaire en quelque sorte. Donc on entend de temps en temps parler de cela dans le cadre de, comme je le disais tout à l'heure, d'affaires criminelles, mais dans l'écrasante majorité des cas, en fait, le FNAEG est utilisé pour des vols, pour des cambriolages, tout simplement parce que ces infractions-là sont plus fréquentes, évidemment, que les crimes. Et donc, aujourd'hui, en fait, l'usage du FNAEG est principalement orienté en termes de nombre, hein, je ne parle pas de l'importance que cela peut avoir pour les victimes, mais en termes de nombre. D'affaires, il est principalement utilisé dans le cadre de vols et de cambriolages. Donc on voit bien que finalement la finalité évidemment a évolué au cours du temps. C'est ce qui était à l'origine un fichier pour des criminels est devenu autre chose en quelque sorte.
Il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous souhaiteriez insister? Je sais que vous êtes beaucoup intéressé au phénotypage, à l'origine géographique. Vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous aimeriez insister?
Alors, il y aurait plusieurs points à dire, mais si je devais en choisir un, je dirais que ces tests reliés à l'apparence et qui incluent pour certains laboratoires l'origine, je pense, nous amènent à nous poser des questions sur les effets de ces techniques, en fait, dans la mesure où les laboratoires donc choisissent des catégories qui sont continentales, hein, je l'ai dit tout à l'heure, alors qu'on sait que depuis la nuit des temps, il y a eu des migrations, il y a eu des contacts entre les populations de divers continents. Ils peuvent sembler sous-entendre qu'à une époque donnée de l'histoire, il y a eu un moment où les continents étaient séparés, où il n'y avait pas de contact, d'une part. Et ensuite, le fait d'utiliser des marqueurs génétiques d'ancestralité qui sont en fait le produit de processus très complexes, à la fois d'évolution et de migration depuis longtemps, et qui ne sont pas tous reliés à l'apparence. C'est-à-dire pour dire les choses simplement, les tests qui donnent l'origine ne sont absolument pas tous reliés à l'apparence. Donc il y a une disjonction entre origine et apparence. Malgré tout, cela peut avoir des effets lorsqu'il y a des processus de simplification, quand on passe de la sphère scientifique à celle des enquêteurs de police et puis au grand public à travers les médias. Il peut y avoir des processus de simplification, mais aussi d'erreur, d'interprétation sur ce que cela veut dire. Et il peut y avoir l'idée que finalement, il y a des catégories d'origine ethno-raciale établies par l'ADN qui mettent en lien l'origine par continent, l'apparence et l'ADN. Ce qu'il faut, hein, nous disent les biologistes, ce qu'il faut, mais ce qui peut exister aussi dans les imaginaires. Donc je pense que il faut y réfléchir et puis se dire que probablement qu'on a tous envie que les auteurs d'infractions, enfin de crimes graves soient identifiés. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, il faut voir aussi jusqu'où l'on va et comment est-ce que ces nouvelles techniques peuvent être comprises. Voilà.
Merci beaucoup, Joëlle Vailly. Donc, il faut absolument lire ce livre sur la trace des suspects, l'incorporation de la preuve et de l'indice à l'ère de la génétique. Merci infiniment. On sent qu'on aurait pu rester très, très longtemps avec vous, mais il est 18h43 et la conclusion, c'est Charlotte qui va nous la faire. Je vous redonne la parole, Charlotte Solninski.
Merci beaucoup. Merci Joël et Fabienne pour cet échange vraiment passionnant. Et merci à vous tous d'avoir été présents à cette huitième édition de Livres en dialogue. J'informe que le livre, donc sur la trace des suspects, est disponible en librairie ou en ligne sur le site des éditions de la MSH sur la plateforme, ou sur la plateforme LCDPU. J'informe également notre public que l'événement sera disponible en replay d'ici quelques jours. Le mois prochain, nous consacrerons la prochaine édition en ligne, toujours le 27 mai, à 17h30, autour du livre « Racisme et jeux vidéo » de Mehdi Derfoufi. Vous pouvez trouver prochainement sur le site de la FMSH les informations relatives à l'événement. Merci beaucoup, bonne soirée à toutes et à tous.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.